Bonjour. Une émission spéciale sur le festival de la BD dans le Pré qui a lieu à Fourques-sur-Garonne dernièrement. Aussi, nous entendrons Jacques Bideride, maire de Fourques, mais également Francis Roux, fondateur du festival de la BD d'Angoulême et président du musée de la BD d'Angoulême. Également, nous entendrons des auteurs de BD, notamment David Senoux d'Agen, des ouvrages autobiographiques dont il rend hommage à son arrière-grand-père, une mémoire en tant que juste parmi les justes, puis Alice Picard de Dordogne, le génie alpage et passager du vent, illustratrice, ensuite Amandine de région parisienne, spécialiste dans la bande dessinée pour enfants, dont Mistinguette. Il faut un an pour sortir une BD, et enfin Drac, coloriste, travaillant en équipe, explique son métier. Marc-Andouard, éditeur de Charente, Les Aventuriers de l'étrange, puis Romain Pujol de Toulouse, à travers Les Lapins Crétins, et Célia Valérie Rodriguez, illustratrice et chevivrière du festival. Côté jardin, c'était l'histoire du chou rouge. Alors, je suis au festival de la baie de Fourques-sur-Garonne, et j'ai Jacques Bideride, maire de Fourques-sur-Garonne, le lieu où a lieu ce festival.
On arrive à attirer de plus en plus de... d'auteurs, d'illustrateurs, de scénaristes. On va dire un petit peu notre vitesse de croisière, puisqu'on attire aussi de plus en plus de monde qui viennent pour pouvoir rencontrer tous ces artistes.
Alors, c'est surtout finalement des sorties familiales, parce qu'on arrive avec les enfants, etc. Parce que bon, là-dedans, on a beaucoup de BD qui sont réservées pour les enfants.
Pas que quand même. Alors si sur l'aspect sortie familiale, je suis bien d'accord. Le point d'entrée, me semble-t-il, des gens qui sont ici, c'est les enfants avec les parents. Je pense que c'est les enfants qui amènent les parents. Par contre, mais aussi on a vraiment des BD de, on peut dire, d'auteurs plus pour adultes et le. On se disait justement hier dans le jury, puisque nous avons un jury qui s'est constitué pour donner les prix Jacques Arbault, et puis il y a eu aussi un grand prix du jury. Ce sont là des BD qui ne sont pas spécifiques pour enfants, et le jury se disait que il faudrait qu'il y ait aussi des BD pour les enfants qui puissent être mis en valeur par le grand prix. Donc voilà, ça faisait partie des réflexions de ce jury hier.
Alors Jacques Arbault, c'est quelqu'un qui était de Fourques, je crois.
Oui, Jacques Arbault, d'abord c'est un artiste qui était auteur, donc à la fois illustrateur et scénariste, qui a été d'abord auteur pour la presse dans le début de sa carrière. Donc il a fait une longue carrière dans la presse. Et ensuite, la suite d'auteurs, comme par exemple sur les pieds nickelés, où il a vraiment bâti plusieurs albums avec ses trois pieds nickelés. Et Jacques Arbault était effectivement un habitant de Fourques. Donc il est décédé et on a voulu lui rendre hommage. Sa femme Sophie Arbault et puis son fils ont donné un fonds d'œuvre à la mairie de Fourques, et donc on a souhaité qu'il y ait ce prix, que le prix de ce festival soit à son nom, Jacques Arbault.
Très bel hommage à finalement un dessinateur de la commune.
Oui. Vraiment on est très heureux d'avoir eu un artiste comme lui. Et très heureux qu'en fait, même après son décès, l'esprit qu'il avait puisse continuer à travers ce festival. Je dois dire, ce festival n'a lieu, enfin ici, bien sûr que nous, mairie, on fait tout pour les aider, mais a lieu parce qu'il y a une association Kit Culture qui l'organise, parce qu'il y a, comme vous avez vu ce matin, tous ces bénévoles qui sont là, qui permettent d'avoir cette organisation-là, et parce qu'il y a eu aussi un libraire au départ qui a travaillé autour de ceci, donc Antoine Le Chevalier, la librairie Libellule, la Maronde.
Très bien, et alors, Fourques-sur-Garonne, quelle est la particularité de cette commune ?
particularité, bon, c'est une commune, si je la présente géographiquement, donc, qui est située entre Marmande et puis la sortie autoroute A52. C'est une commune qui a une caractéristique et quand même qui est très marquée par l'eau, parce que ben, nous sommes à côté de la Garonne. Nous avons le canal, nous avons l'Avance, donc on a 60% de la commune qui est inondable. Et puis il y a d'autre part une forêt de 400 hectares sur le territoire. Donc en fait on a une qualité environnementale très, très marquée. Et c'est une commune qui essaie de travailler pour apporter peu au niveau de la culture et ce de manière accessible à tout le monde. Voilà, ce festival il est gratuit, l'entrée est gratuite. On peut côtoyer des artistes incroyables. Voilà, ça c'est l'esprit de notre commune. À la fois, on va dire, un écrin un peu privilégié en termes paysage, en termes qualité environnementale. Et puis une volonté très grande. De pouvoir permettre à chacun d'accéder à la culture.
Pas que ce festival, finalement, il y en a beaucoup là.
Oui. Non, il n'y a pas que ce festival, puisque on travaille aussi sur avec des festivals qui sont à côté, avec le festival lyrique, puisqu'il y a une journée festival lyrique qui se fait à Fourques. On travaille aussi avec Festival Jazz et Garonne. On a après des événements, d'autres événements qui sont faits tout au long de l'année. Je dis bien, nous, ce que l'on essaie de faire, on est dans un territoire assez vaste, on essaie de travailler avec toutes les sensibilités culturelles, on essaie donc de pouvoir apporter, encore une fois, le plus proche possible, cette possibilité de côtoyer des artistes, de pouvoir participer à des événements, des événements culturels qui puissent être accessibles à tout le monde dans des conditions vraiment les meilleures.
Très bien, merci Jacques Bidéry.
Merci à vous et puis bonne journée au Salon.
Créateur du Festival de la BD et qui est à la première origine depuis le départ. Et donc, c'est avec, je crois, grand plaisir qu'il revient chaque année à ce festival.
Tout à fait. Si vous voulez, je retrouve ici, à Fourques, l'ambiance des premiers festivals qu'on appelait à l'époque Salon d'Angoulême, parce que maintenant, c'est devenu un énorme truc. 320 000 ou 330 000 visiteurs en janvier dernier. Donc, la rencontre amicale que l'on peut avoir ici, c'est très difficile de l'avoir à Angoulême. Les auteurs sont soumis à une pression forte par les éditeurs à dédicacer. Ici, on peut discuter, on peut se voir, on peut passer un moment agréable.
Ça reste le bon enfant ici.
Voilà, et moi j'apprécie beaucoup, ça me rajeunit de se retrouver à Fourques. Alors donc, ça va faire la troisième année que je viens. Et oui, je retrouve des visages que j'ai rencontrés ici. Monsieur le maire, c'est bien d'avoir un maire qui aime la bande dessinée. Nous avons Angoulême aussi un maire qui aime la bande dessinée. Donc ça n'a pas toujours été le cas, mais bon, voilà. Donc ça aussi c'est important. Et puis bon, de voir. D'abord, je vais régulièrement au festival d'Alger. Alger, le cosplay, c'est fou. Il y a énormément de monde là. Et Angoulême s'y est mis. Et maintenant, alors ils se costument en super-héros, enfin bon, en personnage de bande dessinée. Alors les jeunes adorent ça. Voilà, ça c'est très bien. C'est marrant, hein, parce que il y a 10 ans, jamais on n'aurait parlé de cette affaire-là. On se déguisait pour le carnaval, mais pas pour ce genre de choses. Alors voilà. Donc là c'est bien. Voilà. Et puis bon, je pense qu'un petit festival, parce que pour l'instant c'est encore un petit festival, faut les aider. Moi j'essaye de donner un coup de main. Par exemple, je vais à Bassillac, à côté de Périgueux, depuis 30 ans, parce que j'ai travaillé également en Dordogne. Je m'en vais à Martel. Voilà. J'essaye toujours de donner un coup de main à ces petites manifestations qui prennent petit à petit un développement intéressant, mais qui conserve une dimension humaine, une dimension amicale. Et Fourques, c'est tout à fait ça.
Parce que Angoulême, c'est devenu une machine qui, derrière, a entraîné des industries, des universités, quelque chose qui est devenu, carrément, c'est le monde de l'image, un peu comme le Futuroscope, derrière, a entraîné tout un tas d'entreprises qui ont été créées tout autour.
Oui. C'est ce que je raconte dans un bouquin qu'on a publié pour les 40 ans du festival qui s'appelle « Au-delà de la bande ». parce que effectivement maintenant Angoulême, bah, y a bien sûr toujours le festival qui est là, hein, qui draine beaucoup de monde, mais toutes ces écoles qui se sont créées, où tous les métiers de l'image sont là, pas simplement la bande dessinée, mais l'image fixe, mais l'image qui bouge, les jeux vidéo, bon, enfin, à l'heure actuelle, c'est devenu très très important. Ensuite, par ailleurs, il y a maintenant des entreprises qui fabriquent, qui font des films. Y a pas ça. On forme les gens, mais également on leur donne du travail. Ils remportent des récompenses dans les festivals dans le monde entier. Il y a en gros, on peut dire à l'heure actuelle, à peu près 2000 personnes qui travaillent à Angoulême sur l'image. Je dis dans l'année, parce qu'évidemment qu'au moment du festival, il y en a beaucoup plus, parce que toutes les personnes que l'on prend pour assurer la surveillance et tout ça. Mais voilà, on peut penser que l'un dans l'autre, il y a 2000 personnes sur Angoulême et autour d'Angoulême qui travaillent sur l'image.
C'est une Silicon Valley de l'image.
Ouais, ça serait un peu. Mais c'est vrai. Moi, ce qui me voit, c'est le nombre de gens qui veulent venir travailler à Angoulême. Vous avez la Maison des Auteurs, par exemple, hein, où c'est pas évident d'avoir une place aux Maisons des Auteurs, mais qui est très demandée. Il y a des gens qui viennent pour pouvoir faire un an, deux ans de formation sur les métiers de l'image. La cité de le musée de la bande dessinée, qui s'appelle la cité, hein, c'est pareil. Hein, c'est une affaire qui tourne très très fort. Le musée, c'est devenu le Louvre de la bande dessinée. Moi, je fais partie aussi des amis du musée de la bande dessinée. Et je m'efforce de faire rentrer dans ce musée les auteurs de bande dessinée, de façon à ce que, même quand ils ne seront plus de ce monde, leur œuvre restera. Donc, à l'heure actuelle, il y a à peu près 15 000 planches originales qui ont été achetées par les amis du musée, ou plutôt, nos cotisations servent à ça, mais moi j'utilise toutes les connaissances que j'ai dans le milieu de la bande dessinée en avant les auteurs, en leur disant, entrer dans le musée de la bande dessinée, c'est assurer qu'on parlera de vous dans 100 ans encore, hein, comme on parle de Toulouse-Lautrec, d'une certaine façon. Donc, généralement, je suis entendu. Ils acceptent de donner des planches. Alors, il nous en faut beaucoup, parce que, pour le musée de la bande dessinée, une planche ne peut pas être présentée plus de 4 mois. Au bout de 4 mois, elle risque d'être petit à petit d'être effacée. Alors, si c'est fait avec de l'encre de Chine, ça tient plus longtemps, mais si c'est avec des feutres ou des choses comme ça, très rapidement ça s'efface. Donc, on les présente pendant 4 mois, et ensuite pendant 4 ans, ils sont dans les réserves du musée, sans lumière, une température prévue, on regarde également, comment dirais-je, la teneur en acide de l'air. Bon, enfin voilà. Donc, c'est aussi une façon de sauver des planches, parce que les auteurs chez eux, ils ne sont pas équipés pour le faire, et ces planches risquent de disparaître. Puis ce qu'on essaye de faire aussi, et là je parle plus des amis du musée, mais c'est assez les mêmes, les membres de l'association du festival et les amis du musée, beaucoup ont la double casquette. Hein. Donc ce que nous essayons de faire aussi, c'est qu'un auteur ne soit pas présenté uniquement par sa planche, mais soit présenté par les travaux préparatoires. Parce qu'une planche dessinée, c'est au départ une idée, un développement, un découpage, un storyboard, donc petit à petit, et puis après l'impression et la mise en couleur avant de devenir une planche d'album ou une planche de journal. Donc on essaye, dans la mesure du possible, ce côté pédagogique, de façon que les gens voient comment se fabrique une bande dessinée. C'est pas simplement quelqu'un qui fait tout. Hein,
Alors moi j'étais impressionné parce qu'il y a également une école de films d'animation qui était montée, et j'avais rencontré un des réalisateurs d'un des films. J'étais impressionné par le nombre de dessinateurs pour faire un film. C'est incroyable.
Et puis ils sont dans le monde entier assez souvent. Oui. Hein. parce que rare un film est fait au même endroit. Il y en a une partie qui est faite ici, une partie qui est faite en Corée, qui est faite ailleurs. Voilà. Effectivement, c'est ça. Et alors, si vous vous lancez dans le film en relief, parce que nous avons également quelqu'un qui a été président d'ailleurs des Amis du Musée, Yannick, il fabrique donc ce genre d'image en relief que l'on peut voir avec des lunettes ou même simplement projeté sur des vitrines et tout ça. Et le travail qu'il fait en Charente, il l'exporte en Chine. Va y avoir au Futuroscope. Enfin voilà, c'est tout. Avec les lunettes, on est au milieu des dinosaures, ceux qui volent et ceux qui rampent et tout ça. Et ça, vous avez une impression pendant un certain temps. Il y a le son y est aussi. Voilà. Donc ça fait partie des choses que l'on fait à Angoulême.
Ça bouge à Angoulême.
Bah oui, c'était Angoulême était une petite ville qui a eu son heure de gloire par la papeterie. Moi, j'ai d'ailleurs travaillé dans une cartonnerie, moi, à un moment donné. Très peu de temps, mais 3 ans à peu près, après mon service. Hein. Et donc, si vous voulez, on a la chance d'avoir énormément de petits cours d'eau. Donc, on installait des moulins. Et ces moulins permettaient de faire du papier, du carton, de toutes les sortes de... Et également des feutres, parce qu'on ne peut pas faire de papier si on n'a pas les feutres. Donc tout ça, ça a été une période assez faste pour Angoulême. Puis petit à petit, ces métiers, à 2 ou 3 exceptions près, ont disparu. D'abord, c'est des groupes souvent qui ont remplacé ces petites affaires qui étaient familiales. Et puis bon, ça se fait beaucoup ailleurs, mais il y en a encore. Donc la bande dessinée est arrivée, et l'image... Et ça a un peu compensé cette baisse que nous avons là. À l'heure actuelle, heureusement, on a encore les moteurs Leroy. Je crois que ça a été racheté par les Chinois, d'ailleurs. Voilà. Enfin bon, voilà. Mais on a encore ça. Donc, heureusement que l'image est là. Ça redopé un petit peu la ville. Et puis surtout, je pense que sur le plan de la reconnaissance internationale, maintenant, quand on parle d'Angoulême, voilà. Dans le temps, quand je disais je suis angoumoisin, j'habite Angoulême, il fallait que j'explique. C'est 100 km au nord de Bordeaux, c'est à côté de Cognac. Voilà. Ça, c'est... Maintenant, je dis je suis Angoulême, on me dit. Bande dessinée. Ça y est, c'est fait, c'est bien rentré dans les mœurs.
Très bien, merci.
Cracher mon cœur dans un tournant, pratiquer le hit and run sans mon consentement, et planquer ton courage au fond de la boîte à gants. Tu nous as égarés sur une voie réservée. Y'a rien de ce que tu me fais qui est vraiment catholique. Les sorts que tu jettes en déjouer ma logique. Dans un accès de fièvre, parfois je t'imagine qui plonge dans la chair d'une poupée Amandine. Des bouquets d'épines sous le nombril où la douleur se fait intime. Je le savais, je le sentais. Tu n'étais pas l'homme de la situation. Oh, je le savais, je le sentais. Que tu n'étais pas l'homme de la situation. Non, non, non. Dans tout ce que tu me dis, tu dépasses l'entendement. Tes plans sur la comète nous perdent dans le néant. Je rêvais que dans la nuit, ton étoile s'illumine. Des manavettes à l'abri des périls, des nébuleuses, mais tu déclines. Ta lumière fut, ainsi soit-il. Je le savais, je le sentais, que tu n'étais pas l'homme de la situation. Oh non, non, je sur la porte du frigo. Tu ne devais pas faire de notre idylle un fiasco. Attendre le dernier acte pour dévoiler ton complot. Tu devais m'avouer tes crimes, monopoliser la ligne. Je trempe mon fragile dans tes combines. Et des idées noires, j'en ai plein la machine. Je trempe mon fragile dans tes combines. Je nettoie ton linge et le sale et le clean. Je le savais, je le sentais, que tu n'étais pas l'homme de la situation. Oh non, non, je le savais.
Alors, je suis avec David Sénou. Je crois que c'est un local de l'étape, puisqu'il est d'Agen, c'est ça?
Oui. Oui, oui, c'est ça, je suis d'Agen.
Et alors, comment est née, finalement, cette envie de faire de la BD?
Eh bien, c'est venu très tôt, déjà gamin. Je dessinais pas mal quand j'étais gamin. Beaucoup de mangas, de Goldorak, notamment des Goldorak que j'ai dessiné. Et puis après, j'ai fait de la bande dessinée, vraiment éditée, vraiment sur le tard, quoi, à partir de l'âge de 40 ans.
Et là, on va trouver plusieurs livres et BD qui ont chacun des caractéristiques.
Oui, alors, Injuste. Qui est ma troisième BD aux éditions de la Boîte à Bulles, qui relate l'histoire de mon arrière-grand-père qui a été nommé juste parmi les nations pour ce qu'il a fait pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment d'avoir caché une famille juive chez lui.
Voilà, ça c'est ce que m'avait dit que c'était intéressant, parce que il y a le côté historique, et puis finalement, c'est un juste parmi les justes, quoi.
Voilà, c'est ça. La BD est à la fois assez pédagogique sur le plan historique, mais à la fois, il y a beaucoup de sentiments qui sont partagés par le dessin et par l'histoire. Donc, ce qui permet une lecture plutôt agréable et pleine de sentiments. Et voilà quoi, c'est...
En même temps, on rend hommage au grand-père.
Et c'est un hommage, oui, c'est surtout un hommage à l'arrière-grand-père. Voilà.
Alors, après Injuste, on va trouver quoi au juste?
Alors, quelque chose de totalement différent, ça va être Section X. Là, c'est chez un autre éditeur, chez Tabou. Là, on est dans du pastiche de la bande dessinée Pulps des années 70. Donc là, ça va être de la bande dessinée érotique, mais avant tout humoristique. Voilà.
Et après, on va avoir ici, j'ai Mirador, Panther in the Wall. On passe sur quoi là?
Alors, Mirador Tête de Mort, c'est ma toute première BD. Elle relate une certaine période de ma vie où j'ai été dans la mouvance skinhead, plutôt néo-nazi, si on peut dire. Et voilà quoi, Sarah, c'est un témoignage vraiment. C'est ma première BD, c'est un témoignage sur cette période-là. C'est écrit et dessiné avec les tripes, quoi. Voilà.
On retrouve finalement un parcours de vie dans l'histoire.
Voilà, c'est ça, oui. Mais donc, c'est disons que j'ai voulu faire ça parce que, surtout, il y en a... Tout ce qui a traité sur ce sujet, notamment la télé, a été un peu traité de façon... un peu exhibitionniste et malsaine. Moi, j'ai voulu raconter ça de l'intérieur, sans jugement, et voilà, avec le cœur.
Une autre inscription, c'est pour...
Et la Panther of the Hole, c'est quoi?
Alors, c'est Panthers in the Hole, ce qui veut dire les panthères dans le trou, qui relate le parcours de trois Noirs américains depuis la fin des années 50 jusqu'à 2016, qui ont été donc incarcérés dans les années 60 pour des délits mineurs, et qui ensuite se sont retrouvés dans une dans des manigances. Ils ont été victimes de manigances au sein de la prison par les gardiens, parce que voilà, il y a eu un gardien qui a été tué dans la prison, et vu que eux étaient des Black Panthers, on les a injustement accusés de ce meurtre sans preuve. Enfin, des fausses preuves ont été construites contre eux pour justement mettre en péril toute leur organisation Black Panthers, qui était avant tout, qui servait avant tout pour essayer de redonner un peu aux jeunes qui arrivaient dans cette prison une fierté, c'est-à-dire de ne pas succomber au trafic, à la prostitution, qui était monnaie courante dans cette prison qui s'appelait Angola, qui existe encore d'ailleurs, qui est une des plus grandes prisons des États-Unis, qui se trouve dans le sud des États-Unis. Et donc voilà, en fait, c'est un livre militant qui est notamment coédité par la Amnesty International. Voilà.
Je sais même si je résume un petit peu, David Senou, vous écrivez à travers ces BD des témoignages forts.
Oui, on peut. Oui, c'est ça, oui. C'est à la fois de la BD témoignage, reportage, puis historique. En essayant toujours quand même de ne pas tomber dans quelque chose de trop pédagogique, et en y mettant du cœur, comme je l'ai dit tout à l'heure, mettre de l'émotion, que le lecteur prenne un bon moment à lire ses BD.
Très bien. Merci David Senou.
Bien, c'est moi qui vous remercie.
Alors, Alice Picard, je crois qu'elle est originaire de Dordogne, et tu travailles avec ta collègue sur finalement des scénarios en ce moment, c'est ça?
En fait, oui. Bah oui, donc moi je suis essentiellement dessinatrice, un peu coloriste quand il faut, mais là c'est pas en ce moment. Donc je travaille sur les mythiques. Alors on est plusieurs dessinateurs, on doit être... Alors sur le premier cycle, on était 6 dessinateurs qui dessinions chacun un tome en parallèle. Et le tome sortait à peu près tous les 2 ou 3 mois. Du coup, ce qui fait que le lectorat n'a pas besoin d'attendre un an, comme pour beaucoup de séries classiques où... on doit attendre la suite parce que c'est un seul dessinateur, un seul scénariste. Et du coup, là, c'est vraiment un travail de groupe.
Là, c'est un travail à plusieurs mains, finalement. Voilà. Et un travail à plusieurs mains, un travail collectif. Et le dessin, comment est venu le dessin?
Oh bah, depuis toujours. Alors là, je ne pourrais pas vous expliquer parce que je ne m'en souviens pas trop. J'ai toujours dessiné. Et voilà, je racontais mes propres histoires. Je dessinais surtout des animaux à l'époque.
Et tu as fait une formation de dessin?
Alors moi, j'ai fait une formation de dessin d'animation, la même école que Patricia, à quelques années de différence. Et donc Les Gobelins, Paris. Et puis après, j'ai fait un peu de dessin animé à l'époque au studio Disney de Montreuil, quand il y avait encore un studio d'animation là-bas. Donc
c'est compliqué de dessiner, parce que
Quand... Là, on est encore plus nombreux qu'un projet comme les c'est, Mythiques. Où on
c'est,
est,
c'est incroyable. Pour faire un dessin animé,
alors, chez Disney, le monde qu'il faut. Je crois, alors je ne sais plus combien de personnes il y avait au-dessus de Montreuil, peut-être une petite centaine, mais en tout, il y a, je sais pas, je dirais au moins plus de 500 personnes.
500 personnes.
Oui. Quand on voit la longueur des génériques de fin.
Voilà. Et donc, le dessin, ça a toujours été une passion.
Oui, plus ou moins, oui.
Et là, tu continues, donc cette fois, tu travailles avec ta collègue, vous travaillez à plusieurs pour faire finalement un album qui sort tous les 3 mois.
Voilà, 3-4 mois. Donc en ce moment, maintenant, on a 3 par an. Mon prochain, là, que je fais au dessin, va sortir au mois d'avril. Et puis, ensuite, là, je suis, c'est le tome 15. Et là, donc je suis sur le tome 17. Donc en fait, c'est 2 ou 3 tomes en... Je ne vais pas faire le 16, parce que le 16, quelqu'un d'autre le fait, pour que...
Alors, 8 tomes, c'est de la science-fiction, c'est quoi ?
De la fantasy, d'un univers médiéval fantastique. Après, en... alors, c'est pas tout à fait science-fiction, c'est plutôt un mélange entre un peu de post-apocalyptique et steampunk, qui s'appelle Okeania. Qui est aussi une, c'est plutôt une série jeunesse, c'est sorti chez Dargo Benelux en 5 tomes. Et voilà donc.
Très bien, merci Alice Picard.
Merci à vous.
Alors, toujours au festival de la BD dans le Pré, à Fourques-sur-Garonne, et là, je suis au stade d'Amandine. Amandine qui fait pas mal de BD de Mistinguette, je crois, c'est ça ?
C'est bien ça. Il s'agit d'une bande dessinée jeunesse qui raconte les aventures de Chloé, dont le surnom est Mistinguette.
Alors, vous êtes d'où, juste ?
Je suis originaire de région parisienne.
Très bien. Alors, donc, la BD, c'est quelque chose qu'on a, on est né presque avec, quoi, c'est ça ?
Alors, j'ai toujours aimé la bande dessinée, j'ai aimé en lire quand j'étais petite, et très vite, j'ai aimé en dessiner. Car j'aimais beaucoup dessiner, et j'aimais aussi raconter des histoires. Et la bande dessinée permet d'allier ces deux passions, bah, dessiner, raconter des histoires. C'était parfait.
Alors, donc, beaucoup de livres, de BD sur Mistinguette, un peu beaucoup passionnément, mystère sur Internet... Le chat arrive. Donc, il y a plusieurs éditions, je crois, sur Mistinguette.
Alors, Mistinguette compte actuellement 12 tomes. Et on a créé sa série sur son chat, Mistinguette et Cartoon, qui maintenant compte 5 tomes et qui raconte que des petites histoires sur son chat. À l'inverse de la série principale, Mistinguette, qui change de thème à chaque album.
D'accord. Et alors... Pour faire une BD, il faut combien de temps ?
Il faut compter 1 an tout compris. Mais vraiment, entre le moment où on a l'histoire, alors pour Mistinguette, je travaille avec Greg Tessier, donc on va penser l'histoire ensemble, et le moment où l'album sort en librairie, il se sera passé 1 année.
C'est-à-dire qu'il y a d'abord tout le scénario à mettre en place, et donc là, c'est quelqu'un d'autre.
Alors, on travaille le scénario ensemble avec Greg depuis des années. Et une fois que le scénario est complètement écrit, ensuite, je vais pouvoir passer au dessin et puis à la mise en couleur.
Est-ce que vous travaillez sur plusieurs BD en même temps ?
Généralement, on peut avoir une bande dessinée qui en est au stade du dessin et l'album d'après qui est simultanément au stade de l'écriture, puisque ce sont deux façons de travailler différentes, donc on arrive à mener les deux de front.
Oui, parce que ça permet finalement de ne de pas être focalisé que sur un élément, mais ça permet de diversifier un petit peu.
Voilà, c'est ça, et ça permet d'avancer un peu tout en même temps. Pendant que moi je dessine, bah, Greg Tessier peut commencer l'écriture, puis je relis avec lui, et voilà, ça permet d'avancer sur les deux fronts. Et de ne pas se lasser.
Oui, c'est surtout ça. Alors, il y a longtemps que vous dessinez ?
Ah ben alors, il y a longtemps que je dessine presque depuis toujours. Et que je dessine professionnellement, ça doit faire 15 années maintenant.
Et donc, avec plusieurs éditeurs ou un seul éditeur ?
J'ai d'abord travaillé avec d'autres maisons d'édition, mais depuis qu'on a commencé Mistinguette il y a 11 ans, ça fait maintenant 11 ans que je travaille avec les éditions Jungle.
D'accord. Et alors, vous faites que par ailleurs, c'est la collecte, c'est ça ?
C'est bien ça.
Alors, merci beaucoup.
De rien.
Alors, je suis avec Drac, je crois de la région parisienne, c'est ça ?
Tout à fait.
Alors, Drac, particularité, c'est de faire des BD. Quel est le thème un peu sur les BD ?
Alors en fait, moi, ma particularité, c'est que je suis coloriste. Et en tant que coloriste, je travaille sur des BD qui ont plein de thèmes différents, que ce soit des BD jeunesse ou pour un public plus adulte. Donc c'est hyper varié.
Alors c'est un peu le côté intéressant dans la mesure où on a finalement plusieurs thématiques. Alors on va trouver quoi comme thématique ici ?
Alors, par exemple, il y a une série qui s'appelle Les souris du Louvre. Donc, c'est la thématique du musée, où à travers une histoire qui parle de souris et d'humains qui œuvrent pour la paix, on visite le musée du Louvre. Donc, il y a plein d'endroits qui existent vraiment, qu'on retrouve dans la bande dessinée. Il y a un autre thème, c'est la Brigade des cauchemars. Donc, ça, c'est plutôt une histoire un peu effrayante pour les pré-ados, ados. Et il y a beaucoup d'adultes aussi qui la lisent. Donc là, c'est des histoires fantastiques, avec beaucoup de suspense, de révélations et d'aventures. Donc, c'est, voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Eh bien, il y a plusieurs tomes.
Il y a 5 tomes pour le moment, mais il y en aura plus par la suite.
Plus qu'il y a Affinité.
Oui, et il y a Affinité. C'est une série qui marche bien, donc il y aura une suite.
D'accord. Donc, la Brigade des cauchemars. Donc, on ne fait pas de cauchemars, finalement. Et... Et après, il y a plusieurs autres thématiques.
Il y en a énormément. Comme ça fait 17 ans que je suis coloriste, ça fait presque 100 albums sur lesquels j'ai travaillé. Donc, il y a vraiment un peu de tout. Là, par exemple, devant moi, il y a aussi Les songes du roi Griffu, qui est une BD plutôt de fantasy. Enfin, non, plutôt de Heroic Fantasy, mais avec pas trop de magie, quoi. C'est un peu l'univers du Seigneur des Anneaux, mais avec très très peu de magie, avec un dessin magnifique et une histoire vraiment géniale. Donc, je suis très contente d'avoir travaillé là-dessus. En ce moment, moi, je travaille sur presque entre 5 et 10 albums différents. En tant que coloriste, je peux travailler sur plusieurs albums en même temps, et il y a une variété énorme, donc c'est dur de résumer ça. Mais j'adore travailler avec plein de gens différents.
Alors, c'est intéressant parce que justement c'est varié de ce côté-là.
Ultra varié, ouais. J'adore passer d'un univers à l'autre, je crée des ambiances, je m'attache aux personnages, et je travaille avec des gens qui ont des profils très différents, des personnalités pour rien avoir. Donc, moi ce que j'aime bien c'est m'adapter, comprendre ce qu'on attend de moi et puis que tout le monde soit content.
Alors en amont, c'est-à-dire que quand vous devez travailler sur un album, vous réunissez à plusieurs pour... il y a celui qui a, bien sûr, fait le scénario, celui qui a dessiné, et puis ensuite, Drac, toi, t'arrives pour colorier tout ça, c'est ça ?
Voilà, exactement. Donc, suivant la façon de travailler des scénaristes, dessinateurs, éditeurs, on va s'organiser différemment. Donc, il y en a qui vont me donner beaucoup d'indications dès le début, avec des photos de référence ou des images de référence dont je vais me servir pour pouvoir créer des ambiances. Et puis, il y en a qui vont me laisser un peu libre, je vais improviser. Mais comme je travaille sur ordinateur, avec un logiciel qui me permet de faire des ajustements très facilement, il n'y a pas de problème pour faire des échanges et des corrections par la suite. Donc, on travaille beaucoup par téléphone. Et mon objectif, voilà, c'est d'arriver à un résultat qui plaît aussi bien au scénariste qu'au dessinateur qu'à l'éditeur.
Alors, quand on sort une BD, il faut combien de temps à peu près ?
Alors, c'est une fois de plus très variable parce que ça dépend du nombre de cases par planche, ça dépend du nombre de planches, ça dépend du niveau de détail des cases et ça dépend du style de couleur qui est demandé. Par exemple, les songes du roi Griffu, c'est des couleurs qu'on pourrait appeler en aplat. Donc, il n'y a pas d'ombre et de lumière. C'est un petit peu plus rapide que, par exemple, les souris du Louvre où il y a beaucoup de reflets, d'ombre, de lumière, d'effets comme ça. Mais on va dire que si je devais établir une moyenne, je mets à peu près entre 2 et 3 mois par album pour mettre en couleur un album de taille classique. Voilà.
Donc, c'est un travail de longue haleine.
Oui. Ça, oui, oui, il faut pas être patient, quoi. C'est voilà. Ouais, ouais, ouais.
Merci, Drac.
Avec grand plaisir.
Big Flo et Oli, tu connais, non?
Petit biscuit.
Tout le monde me dit, tu sais, pour ton avenir on a peur. On voudrait que tu sois un médecin, toi, tu veux être un rappeur. Ma meuf m'a dit, tu m'aimes pas assez, on dirait que tu t'es lassé. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as plus le même regard quand t'as fini de m'embrasser. Je m'endors avec mes coudes, blues, plus personne ne croit au coup de foudre. La voisine est venue me voir pour me dire qu'elle en avait marre de mes engueulade avec ma mère. À chaque fois c'est pareil quand je m'énerve. Je tape dans la porte et je casse mes affaires. Puis je m'endors et quand je me réveille je regrette. Ah, ah, ah. Tout le monde me parle, tout le monde croit savoir ce que je dois faire de ma vie, ce qu'il y a dans ma tête. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses, la nuit porte conseil. Faut pas que t'y penses. Ne pense plus à rien, 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 rien. Ça y est. Ça y est. Ça y est. Il m'a dit, t'es comme les autres en fait. Tu m'apportes que des problèmes, allez sors de ma vie. De toute façon je le pensais pas, quand je te disais je t'aime. On nous répète qu'avant c'était mieux. On croit en l'amour qu'une semaine sur deux. Le temps passe vite, on est des jeunes vieux. Hier un petit m'a appelé monsieur. Par la fenêtre, j'attends un signe. Je pense à mon avenir qui doucement se dessine. En attendant je me remets ce vieux son de Biggie. Celui qui fait
It was all a dream.
Un seul sourire et mille pleurs. On attend la surprise comme les Kinder. Pour éviter de dire, les enfants, j'ai rencontré maman sur Tinder. Toutes les questions sans réponse se baladent dans ma tête. La main sur le cœur, des fois j'ai trop peur qu'ils s'arrêtent. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses, la nuit porte conseil. Faut pas que t'y penses. Ne pense plus à rien, 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 rien. Ça ira mieux demain. Ça ira mieux demain. Ça ira mieux demain. On dit que la nuit porte conseil. On dit que la nuit porte conseil. On dit que la nuit porte conseil. Mais j'écoute rien. On dit que la nuit porte conseil, on dit que la nuit porte conseil, on dit que la nuit porte conseil, mais j'écoute rien, rien, rien.
Alors, je suis avec Marc-Antoine, éditeur. Alors là, on est en Charente, à Sainte. Et éditeur, pourquoi éditeur?
Parce que après 10 ans de travaux alimentaires, j'ai eu envie de faire quelque chose qui avait du sens. Et donc, je suis lecteur de bande dessinée depuis très longtemps. Je dessine aussi un petit peu. Et donc, j'ai voulu créer cette structure pour pour proposer aux jeunes lecteurs des bandes dessinées d'aventures, de merveilleux, avec des monstres et des sorcières pour les faire rêver, tout simplement. Comme moi, quand j'étais petit, des auteurs m'ont fait énormément rêver quand j'étais lecteur.
Donc, ça s'appelle Les Aventuriers de l'Étrange.
Exactement, Les Aventuriers de l'Étrange, parce que je voulais indiquer aux lecteurs ce qu'ils allaient trouver dans mes livres, c'est-à-dire de l'aventure, de l'étrange, du merveilleux, du fantastique. Parce que c'est le genre que j'aime le plus, lire. Donc je pense que, pour être tout à fait honnête, je pense que je fais les livres pour moi à la base. Voilà.
On se fait plaisir.
C'est exactement ça, on se fait plaisir. Mais voilà, en travaillant avec des auteurs que j'aime, en ayant une cohérence de ligne éditoriale. Donc au début, effectivement, c'est se faire plaisir, mais après, c'est organiser toute cette aventure éditoriale pour qu'elle ait un sens et qu'elle essaie de perdurer le plus longtemps possible.
Alors l'idée, c'est se faire plaisir, mais après, de transmettre ces plaisirs.
Oui, exactement, parce que moi, j'ai des souvenirs de... Quand j'avais 10-12 ans, j'ai des souvenirs d'albums de bande dessinée qui ont marqué qui ont mis des images indélébiles dans ma tête. Et en fait, si je pouvais réussir à faire ça avec quelques lecteurs, eh ben déjà j'aurais l'impression d'avoir un peu gagné.
Et alors là, les aventuriers de l'étrange, vous êtes sur Sainte, l'imprimerie, c'est où ? Vous imprimez où ?
Alors moi je travaille uniquement, donc la maison d'édition existe depuis 4 ans, et je travaille uniquement avec des étrangers, c'est-à-dire que mes auteurs sont tous à l'étranger, c'est un choix de ma part, au Danemark, en Roumanie, en Espagne, en Italie, et même mon imprimeur est en Slovaquie, voilà, donc je ne collabore qu'avec des gens...
Vous êtes européenne.
Mais c'est exactement ça, parce que en fait, au début, c'était une contrainte financière, et maintenant, c'est vraiment quelque chose que je recherche de travailler avec des Européens, parce que je me rends compte que, en fait, il y a des sensibilités voisines, et c'est une ouverture finalement sur le monde. Essayer de véhiculer ces sensibilités différentes au maximum de gens pour leur ouvrir l'esprit finalement.
Ah, ça nécessite quand même une traduction au départ.
En fait, sur chaque album. On est obligé, parce que moi je m'adresse au public français, donc des albums qui sont au départ espagnol, on fait une traduction, on fait des nouvelles maquettes, mais après très souvent j'ai la chance de collaborer avec des auteurs, si même s'ils sont à l'étranger, quasiment tous parlent très bien français, donc le travail de traduction est complètement collaboratif et le but c'est de trouver les meilleurs mots possibles pour pas dénaturer le travail des auteurs.
Alors là, on va trouver vraiment de tout, hein ?
De tout, oui, mais il y a quand même souvent un peu les mêmes choses qui reviennent, je me rends compte. Il y a souvent des monstres, il y a souvent des sorcières, il y a souvent beaucoup d'aventures, des voyages initiatiques. Et ma mère étant institutrice, je pense que ça a dû déteindre sur moi. Pour moi, c'est très important de proposer des albums qui s'adressent à tout le monde, c'est-à-dire que selon son âge, son vécu, sa maturité, les albums puissent être accessibles. Tous les albums sont globalement des albums jeunesse, mais il y a plusieurs niveaux de lecture, parce qu'en fond, quand on enlève les courses-poursuites à fond la caisse en moto, les monstres, les sorcières, et ben en creux, il y a toujours des questionnements universels, comme par exemple, que faire avec l'héritage du passé, ou la fougue de la jeunesse, ou trouver sa place dans la société. Et ces grandes questions universelles, traitées par des auteurs qui ont des cultures et des sensibilités voisines de la nôtre, et ben ça offre un décalage un petit peu différent et un charme particulier que je recherche vraiment.
Oui, parce que finalement, on va retrouver un peu partout ces histoires-là, mais interprétées différemment, puisque on a des auteurs sur des différents pays, quoi.
Exactement, et ça me fait extrêmement plaisir de constater. Si je prends l'exemple d'un album qui s'appelle Le lion et la souris contre les envahisseurs de Zurg, c'est une adaptation de la fable de La Fontaine, Le lion et le rat. Donc, fable de La Fontaine qui fait partie intégrante de la culture française et du patrimoine français. Voir que c'est Jean de La Fontaine a été adapté par un scénariste américain, un dessinateur espagnol, la maquette a été faite par quelqu'un en Roumanie et l'impression en Slovaquie, et bien en fait pour moi c'est ça le monde, quoi. C'est la culture qui traverse les frontières et qui est accessible à tout le monde.
Là on est vraiment au cœur l'adaptation malicieuse de la fable de Jean La Fontaine, Lion et le Rat. À côté, il sort à dormir debout, en dort debout, hein, dans ce livre.
Non, dans ce livre, on est un peu dans la même logique parce que c'est un auteur, le même auteur espagnol, Pedro Rodriguez, qui adapte en bande dessinée cette nouvelle classique d'épouvante de grands auteurs classiques comme Stevenson ou Edgar Allan Poe ou Guy de Maupassant. Et donc, c'est un recueil de 7 courtes histoires adaptées en bande dessinée. C'est un album d'épouvante, mais un petit peu de l'épouvante un petit peu surannée, donc accessible à tout le monde, et qui, je me suis rendu compte, donnait une porte d'entrée aux lecteurs pour ensuite qu'ils aillent découvrir les textes originaux de ces grands auteurs classiques.
Finalement, c'est une ouverture sur des classiques dont on ne mesurait pas par derrière.
Oui, en fait, c'est l'ouverture finalement sur des choses qui sont sur des choses de la culture intemporelle, parce que je vois dans cet album-là, Pedro Rodriguez a choisi des auteurs français, anglais, américains. Voilà, c'est la culture finalement. Peu importe les frontières.
Très bien, merci. Alors, quand on dit les lapins crétins qui étaient au départ finalement Romain Pujol, toulousain, ça a démarré par là. Et puis ensuite, on est passé sur les avenis. Les avenis, c'est... vous êtes à deux, là, pour ça.
Oui, c'est ça, tout à fait. On est à deux. C'est d'ailleurs la seule BD, je crois, où on est si peu nombreux, parce que d'habitude, je travaille avec de grosses équipes. On est scénariste, dessinateur, coloriste. Là, à venir, on n'est que deux, et c'est Vincent Co qui fait lui-même ses couleurs. Et Vincent Co, c'est un ami de longue date que je connaissais des blogs BD à l'époque. Donc c'était les années 2007-2008. Donc on se connaît depuis une quinzaine d'années. Et voilà, et on travaille ensemble sur Avni. On continue. C'est pour l'instant. Alors Les Lapins Crétins, c'est ma plus longue série, c'est 9 tomes. Mais en septembre prochain, Avni va rattraper Les Lapins Crétins. Et l'année d'après, Avni dépassera Les Lapins Crétins avec un 10e tome. Donc Avni va devenir ma plus grosse série de ma bibliographie.
Faire une série comme ça, en général on travaille sur plusieurs choses, plusieurs projets en même temps. Livre comme ça, La Machine à Blagues, pour combien de temps?
Donc pour faire un album comme ça, généralement, alors on est publié dans le magazine Toboggan comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un rythme de un épisode par mois, donc chaque album met à peu près un an pour sortir. Donc tous les ans, il y a au mois de septembre un nouveau tome d'Avni. Mais par contre, après, c'est sûr que le rythme de publication fausse un peu le temps réel de fabrication d'un livre. C'est-à-dire que voilà, je suis bloqué par le rythme de publication. Si demain l'éditeur me dit « bon ben, t'es plus publié, mais tu peux sortir des Avni au rythme que tu veux », un livre d'Avni, je pourrais l'écrire en 2 mois, 3 mois peut-être. Et après, peut-être le dessin demanderait plus de temps par contre. Mais voilà, en tout cas, en ce qui concerne mon travail, 3 mois, ça pourrait suffire pour faire un Avni largement.
Et alors là, on va trouver plusieurs éléments. Si je vois le monde à l'envers, là, vous êtes nombreux pour faire ça.
Le monde à l'envers, c'est une adaptation d'une chaîne YouTube. De Jenny et Valentin, donc qui sont co-auteurs du livre. Je suis leur scénariste, j'écris avec eux les histoires. Il y a également Orne Péréard, qui est un ami toulousain, qui s'occupe des dessins, et c'est Ben Beka, un coloriste, qui s'occupe donc des couleurs. Et on est donc 5 à travailler sur cette série. Et c'est vrai que je crois que c'est le plus gros nombre de participants à un livre que j'ai pu faire. Ouais, c'est ça.
Et alors, quelque chose hors micro, on a eu l'occasion d'en parler. Vous avez finalement, au lieu de travailler seul chez soi, vous avez découvert quelque chose qui peut être très novateur dans l'imaginaire et surtout dans les échanges à proximité finalement à Toulouse.
Alors effectivement, là je suis en train de construire un petit atelier toulousain. Pas si nouveau que ça, parce qu'il y en a quand même pas mal qui existent en centre-ville. Je crois même savoir que dans beaucoup d'autres grandes villes, Les ateliers sont nombreux. Voilà, moi je vais essayer de créer le mien avec, pareil, l'énergie qui est la mienne, l'état d'esprit un peu que j'aime dégager dans mes livres. Donc je vais essayer de recruter des auteurs, donc des gens déjà publiés ou alors en cours de publication, pour avoir voilà, une espèce d'harmonie de travail. Quand on est auteur, généralement, on a un rythme de vie un peu dégueu. Et l'idée de l'atelier, c'est vraiment de s'organiser, d'organiser un petit rythme un peu plus sain pour bosser.
En plus, ça permet d'avoir des échanges, il y a plein de choses.
Exactement, ça permet d'échanger autour d'un projet. Parfois, là, je suis déjà dans un atelier à Toulouse, l'atelier de l'aquarium, où il y a quelques auteurs, même des auteurs que je lisais quand j'étais plus petit, comme Dabs, qui bossait dans le magazine Show, le magazine de Titeuf. Et on a échangé, on discute beaucoup, on se montre nos gags respectifs. Et après, on a envisagé aussi l'éventualité de travailler ensemble dans le journal de Spirou. Donc on a déjà eu une ou deux pages publiées, si je ne dis pas de bêtises. Et là, on travaille sur une série entière assez régulière. On va voir si ça passe ou pas. Mais en tout cas, voilà, on y réfléchit.
Donc y a plein de choses qui évoluent là.
Exactement. C'est un métier qui est de façon très surprenant parce que je ne pensais pas travailler un jour dans le domaine du jeu vidéo avec les lapins crétins, dans le monde de YouTube avec les youtubeurs en question, faire de la presse pour les petits, même le Codex de Théo, faire une aventure un peu dans le genre thriller, je ne pensais pas non plus. En fait, les idées viennent comme ça au fur et à mesure, ou se basent sur des vieux trucs que j'avais quand j'étais plus jeune et repop à un moment. Donc c'est un peu la loterie des idées, je ne sais jamais ce qui va sortir, et voilà, mais c'est un métier qui me ravit et qui me surprend d'année en année.
Merci Romain Pujol.
Eh ben merci à toi et merci à tous ceux qui écouteront cette petite interview.
Alors je suis avec Zéa qui a participé fortement à l'organisation de ce festival en tant que membre, mais également qui a aussi la particularité, c'est d'être fait des dessins, c'est ça?
C'est ça, oui, je suis autrice de bande dessinée, je fais de l'illustration, du scénario, voilà.
Et alors, tu as commencé comment?
Voilà, moi j'ai commencé, j'avais 5 ans, je dessine depuis que j'ai 5 ans. Et après, j'ai fait une école de dessin quand j'ai eu une fois que j'ai passé le bac. J'ai fait de l'illustration et de la bande dessinée et j'y suis restée.
Quand on y tombe dedans, après on s'en sort plus là.
Voilà.
Et alors là, tu fais un peu de tout, c'est ça?
Je fais de tout, ouais. Je fais du scénario, j'aimerais bien me former au tatouage, j'aimerais bien faire des fresques murales, j'aimerais faire des grandes affiches, plein de choses.
Alors, je vois, tu fais des pins.
C'est ça.
Tout un tas de marque-pages, c'est ça?
Exactement.
Des affiches.
Des affiches, ouais. Qu'est-ce que je fais? Parfois, je fais des petits bijoux. Je fais des carnets de croquis qui sont faits 100% main. Je les imprime, je les agrafe moi-même. Voilà.
Donc, tu es illustratrice.
Exactement.
Et alors, après, de là, faire une narration, parce que c'est autre chose.
Oui, c'est assez particulier. Je sais faire, mais c'est pas mon point fort. Donc, j'aime bien avoir un scénariste qui pourrait m'aider à faire ce genre de travail.
Donc là, c'est un travail en binôme.
Voilà, exactement. C'est souvent comme ça que travaillent d'ailleurs les auteurs. Les bandes dessinées sont souvent faites à plusieurs.
Oui, bien sûr. Et là, pour l'instant, tu es dans la partie illustration, mais demain, tu partiras dans autre chose.
Voilà, j'aimerais bien essayer vraiment de me mettre au scénario, de faire une bande dessinée à moi, toute seule. Et puis aussi de me former vraiment au tatouage.
Tatouage?
Au tatouage, oui. Je voudrais essayer de tatouer les gens pour les aider. Parce que mon but final, c'est de tatouer les femmes qui ont eu un cancer du sein.
Ah, d'accord.
Voilà.
C'est l'idée généreuse.
Voilà, les aider et pour qu'elles passent une étape, en fait.
D'accord. Eh bien, belle perspective. Particulier, je crois que tu fais également l'illustration d'un prochain salon.
Oui, tout à fait. Le salon du livre de Beaupuis, tout à fait, qui se passe en mai.
Voilà.
Où je serai aussi en stand. Je pourrai être là pour dédicacer, faire des petites illustrations, des portraits, voilà.
Très bien. Merci.
Merci.
Et voici Côté Jardin avec Patrick. Aujourd'hui, je vous parlais du chou rouge. Qui ce gros joufflu sympathique qui se distingue avec son superbe habit violacé au milieu des très classiques légumes verts? Il serait temps de lui accorder la place qu'il mérite. Dans la famille des choux, il y a les grands qui ne manquent pas de panache, comme le kale, et puis les courts sur tige. Dans la famille des choux, il y a les grands qui ne manquent pas de panache, comme le kale, et puis les courts sur tige, formant une boule de feuilles étroitement imbriquées. On les appelle les choux paumés, rien à voir avec le fruit du pommier. Qu'il soit blanc, vert ou rouge, il porte le nom scientifique de Brassica oleracea, variété capitata, autrement dit un chou à grosse tête. C'est bien ainsi que les moines jardiniers du Moyen-Âge le voyaient, jusqu'à employer le latin médiéval capucium, qui a engendré les mots de caboche, cabage en anglais, dont cabu, chou. Indispensable alimentation paysanne, le chou est bien originaire d'Europe. On lui attribue quelques vertus médicinales contre la goutte, la surdité et les maux de tête. Pourtant, la sœur bénédictine Hildegarde von Bingen nous met en garde au XIIe siècle sur le fait que les choux, dont le rouge, sont de nature humide et poussent grâce à l'humidité de la rosée et de l'air. Ils provoquent chez l'homme les indispositions et ils blessent les entrailles fragiles. Cuits dans le frigo ou avec la viande, ils sont nocifs et augmentent les humeurs mauvaises puisqu'ils ne les diminuent. Mais enfin, c'est l'un des rares légumes d'hiver et le rouge fait figure de joyau dans les rangs du potager. Curieusement d'ailleurs, sa couleur peut passer du violacé rouge en sol acide au violet bleuté en sol basique. C'est à cause de 29 de ses constituants, les anthocyanes, qui ont la propriété de changer de couleur en fonction du potentiel hydrogène du pH. De ce fait, le chou rouge a été traditionnellement la vedette des cours de chimie au collège lorsqu'il était question de réactions acido-basiques. En cuisine, on contourne aussi cette évolution chromatique en ajoutant un fil de vinaigre ou des pommes vertes pour qu'il ne vire pas au bleu noir, moins appétissant dans l'assiette. C'est aussi grâce à cet anthocyane, aux vitamines C, vitamine B9 et aux carotènes, le soufre, le calcium, le potassium et le fer qu'il contient que le chou rouge peut se prévaloir aux propriétés antioxydantes, antimicrobiennes, antimutagénèses et anti-inflammatoires. Des recherches récentes en font un allié dans la lutte contre les troubles métaboliques, mais aussi le cancer, les maladies oculaires et les maladies cardiovasculaires. Alors si on plantait des choux? Eh bien le chou aime les sols riches et bien drainés, mais ne craint ni l'humidité ni le froid puisqu'il résiste à moins 8 degrés. Il se sème au printemps, de février en avril, sous châssis, ou se met en place sous forme de plant, en avril à juin. Récolté d'octobre à février, le chou rouge se conserve plutôt bien. C'était l'histoire du chou rouge. C'était Côté Jardin avec Patrick.
Voilà, l'émission spéciale sur le Festival de la BD
dans le pré à Fourques-sur-Garonne qui a eu lieu dernièrement, s'achève. Nous avons entendu Jacques Biril, maire de Fourques, Francis Roux, fondateur du Festival AB d'Angoulême, mais également des auteurs de BD, dont David Senou, Alice Picard, Amandine, Drac, Marc-Antoine et Romain Pujol, et Célia Valérie Rodriguez, illustratrice et chevivrière du festival. Côté jardin, le chou rouge. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.